C'est la suite en fait de la prédication que je vous ai donnée la dernière fois. Vous vous souvenez de cette fameuse boucle hein, dans le désert d'Exode là, et où finalement on passe par les épreuves d'une manière ou d'une autre. Et puis, qu'est-ce qu'il en ressort? Comment Dieu permet? Qu'est-ce qui se passe d'une manière ou d'une autre? Et j'aimerais juste lire ce texte ici. Ça va tout à fait aussi dans la louange que Lewis nous a partagée ce matin. Je dois vous le dire franchement, j'aime pas le chanter ce chant. Béni soit le nom du Seigneur, hein, je veux dire, tu as donné, tu as repris, béni soit le nom du Seigneur. Personnellement, c'est pas un truc que j'aime. Mais c'est une réalité théologique, dans le sens que c'est arrivé avec Job. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si Dieu permet des choses dans nos vies, c'est pas pour nous détruire. C'est pour nous encourager, nous fortifier, puis nous amener plus loin. Mais on le voit pas sur le moment. Vous comprenez, quoi? Et moi, j'ai déjà perdu pas mal de choses, je veux dire, mais Dieu a redonné. Dieu a repris, mais il le donne différemment. Mais peut-être que des fois aussi, il y a des choses qu'on croit que c'est acquis, et puis que finalement tout nous est dû. Mais rien n'est dû, tout est grâce. Et qu'on ait cette attitude d'humilité. Et je crois que ce texte, il va tout à fait dans ce sens. C'est Exode 3, 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ça me fait tellement du bien de savoir que Dieu connaît ma souffrance. Dieu connaît les difficultés, Dieu a vu, Dieu a entendu, Dieu sait. Et souvent la souffrance, elle nous rend égocentriques parce qu'elle nous concentre sur nous et on a l'impression que finalement on est seul dans la souffrance. Et c'est vrai qu'on est seul. Les proverbes le disent que la souffrance est un chemin de solitude, dans le sens où finalement, même si quelqu'un a passé par là avant nous, il peut mieux comprendre. Surtout, il peut mieux se taire, il a un peu moins de théorie, qui fait que, je veux dire, on peut partager l'émotion. Mais effectivement, il y a un chemin de solitude dans l'épreuve. Et cette épreuve, eh bien, elle a pour but de nous amener auprès de Dieu. La souffrance, elle n'est jamais neutre. Soit elle nous rapproche de Dieu, soit elle nous éloigne de Dieu. Mais elle n'est jamais neutre. Donc, finalement, c'est bien de savoir qu'il a vu, il a entendu et il connaît. Et je suis descendu. Alléluia. Il est descendu. Il est venu. Il ne nous regarde pas simplement de l'en haut, puis il nous dit, viens, on est déjà à genoux, on ne peut déjà pas avancer. Non, Jésus descend. Il vient. Il vient dans notre quotidien. Il vient nous rejoindre là où nous en sommes. Il vient nous rejoindre dans nos difficultés, dans nos souffrances. Et c'est dans ces moments-là, je veux dire, que quelque part, c'est bien de le savoir qu'il sait et qu'il nous accompagne. Une des choses qui m'a touché à un moment donné, c'est que des fois, c'est vrai, on dit, mais c'est bien la théorie, c'est bien de croire en Jésus d'une manière ou d'une autre, mais comment est-ce qu'on est sûr que Dieu y sait? Moi, je sais que Dieu y sait, mais c'est comme je sais qu'il peut guérir. Vous comprenez? Il n'y a pas d'engagement. Mais comment est-ce que je sais que Dieu sait vraiment? Et comment moi, je sais ça? Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, une seule fois, et j'ai plus besoin de redemander à Dieu, est-ce qu'il sait? Pas seulement dans la théorie, mais dans la pratique. C'était un jour, il y avait 4 000 personnes dans une salle, il y avait un prophète qui était là, et il m'a pointé du doigt dans les 4 000, il m'a dit « Lève-toi ». Et puis il m'a fait deux, trois choses, il m'a dit deux, trois choses qui étaient juste géniales, c'était super. C'est aussi à ça que je suis mort, de ce que Dieu avait dit que je devais faire, mais Dieu me l'a enlevé, et Dieu a redonné. Mais la chose qui m'a touché, ce n'était pas tellement ça. Ce qui m'a touché, c'est que le gars, il est revenu, puis il m'a dit « Pierre-Alain, la prière que tu as faite », puis il m'a dit la prière que je lui faisais, il m'a dit « Celle-là, je l'ai entendue et tu entendras cela de ma part quand tu viendras. » Waouh! Je cassais les pieds à Dieu pendant des mois sur un sujet de prière que seul lui savait. Il n'y a personne, j'en avais parlé à personne, personne ne savait. Et tout d'un coup, tu as ce gars qui débarque, puis il me dit, j'ai entendu cette prière-là, alors sache que celle-là, je vais l'exaucer. Waouh! Ah, mais alors tu es vraiment au courant, quoi. Vous savez, des fois, on est stupide. Hein. On prie, on demande des choses, puis quand ça arrive, on est étonné. C'est notre nature, quoi. C'est comme ça qu'on est, je dirais. Et finalement, on est tous là, quoi. Mais je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Tous des noms un peu bizarres. Principe. C'est que dans nos difficultés, Dieu vient nous rejoindre. Mais ce n'est pas parce que Dieu vient nous rejoindre que c'est plus facile. Parce qu'il y a des ennemis qui sont dans la place et qui sont là. Et nous sommes appelés avec Dieu à les chasser. Peut-être que dans votre vie, il y a des non-pardons. Peut-être qu'il y a des expériences de vie qui vous ont bloqué, des manières de penser, des fausses valeurs, des choses auxquelles vous croyez, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Et Dieu va déloger tout cela. Mais il ne va pas le faire d'un coup. Des fois, il faut une vie pour certaines choses. Mais Dieu, il est avec toi dans ce combat. Et de savoir que Dieu est avec moi, ça me donne la force de combattre. Actuellement, je suis en train de passer par une vallée de l'ombre de la mort et des difficultés qui sont là. Oh, rien à voir avec le péché, c'est les circonstances de vie qui font que c'est comme ça, quoi, je veux dire. Et ces choses-là, je les vis. Je ne suis pas juste là pour vous donner des théories, mais pour les vivre et pouvoir être accompagné dans ce que Dieu nous demande. J'aimerais demander à tous ceux qui vivent en ce moment-là une épreuve difficile dans laquelle vous êtes en train de passer, j'aimerais vous demander de vous lever. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander ce que vous vivez, mais j'aimerais prier. Est-ce que vous levez-vous si vous êtes dans une épreuve de vie difficile, dans laquelle vous n'avez pas de réponse, dans laquelle où Dieu vous appelle, et puis il vous dit, ok, moi je suis coincé, je suis dans mon désert, je suis dans mon truc, je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, je suis juste perdu. Vous posez des questions à Dieu, pourquoi, comment, etc. Vous êtes dans cette attitude-là. Je dis, voilà, ben, bienvenue au club. Hein. On est tous ensemble, on vit les mêmes choses. Chacun pour soi, dans son domaine. Quoi. Mais Dieu, il sait. Il connaît vos vies. Dieu, il connaît ce qui se passe. Il a entendu vos cris et il est venu. Et il vient par le Saint-Esprit dans vos vies pour vous accompagner dans cette épreuve. Est-ce que vous le croyez? J'aimerais demander aux frères et aux sœurs qui sont à côté de ces frères, là, de leur, juste leur poser la main sur eux et on va prier pour eux et on va les bénir. Hein? On est solidaires. La Bible, elle dit porter les fardeaux les uns des autres. Il n'y a pas besoin de tout savoir. Mais je veux dire, quelque part, on va les porter et on va demander à Dieu de les bénir, de les garder, de les fortifier, de les accompagner et de les aider à grandir au travers de cette épreuve et que l'ennemi ne puisse avoir aucun droit sur eux. Amen. Seigneur Jésus, je te confie ces frères et sœurs qui se sont levés ce matin et tu connais leur situation, Seigneur. Tu sais qu'ils sont dans une situation difficile, de conflit, de tension extrême, peut-être même où ils n'ont pas réussi à chanter cela ce matin tellement c'était fort. Eh bien, Père, je te les confie entre tes mains. Moi, je sais que tu les aimes. Je sais que tu sais que tu les connais là où ils en sont maintenant. J'aimerais te prier, Père, accompagne-les, soutiens-les. Saint-Esprit, guide-les, parle-leur, accompagne-les, enlève les obstacles, ouvre les portes, mets les choses en place, Seigneur, dans leur vie pour qu'ils puissent finalement être vainqueurs de cette épreuve. Et merci Jésus, parce que tu as tout fait pour eux et tu as tout accompli à la croix pour les bénir et les soutenir dans cette épreuve. Seigneur, je ne connais pas l'issue des épreuves de chacun, mais ce que je sais, c'est que rien ne nous séparera, comme il a été dit, de ton amour manifesté par Jésus. Alors je te les confie et je te prie, Saint-Esprit, que tu les libères, des griffes de l'ennemi, si ça devait être de l'ennemi. Eh bien, au nom de Jésus, nous ordonnons à Satan de reculer de ces situations. Nous proclamons la victoire de Jésus, le sang de l'agneau qui a coulé sur mes frères et sœurs. Peu importe ce qui s'est passé, Jésus, tu es mort pour eux et ils sont à toi. Et tu veux les bénir et les encourager. Et en même temps, Seigneur, dans cette épreuve, révèle-toi, montre qui tu es et aide-les à grandir. Et à devenir plus fort, et qu'il se relève de ce combat. En ton nom, Jésus, nous te demandons ce miracle pour chacun. Amen. Amen. Merci. Voilà, la prédication est finie. On a atteint l'essentiel, non? Pourtant, j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. Vous me connaissez. J'aime beaucoup cette fresque que j'ai vue moi-même dans une des tombes à Louxor. C'est un des vizirs qui est là, qui était un des responsables. Et puis, c'est la tombe 35 qu'on trouve. Puis, c'était le gouverneur de la ville, donc de l'ancienne Thèbes, qui est aujourd'hui Louxor. Et puis, finalement, il était sous le règne de Toutmosis III. Ça ne vous dit rien, Aménophis II et tout, mais vous avez les dates, 1425 environ. Ce qui est vraiment génial, moi, je suis un féru, je suis un passionné d'archéologie. Quoi. Alors, je vous bassine un petit peu. Quoi. Mais, je veux dire, ces textes-là ne sont pas là par hasard. Et ce qu'on peut voir là à côté, vous savez que c'est contesté. Ils disent, mais en Égypte, il n'y a jamais eu d'esclaves. Il n'y avait pas des esclaves, il n'y avait que des paysans qui volontairement allaient travailler pendant des heures pour tailler les carrières et tout. Mais il faut savoir que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui ne veulent pas d'Israël. Et donc, c'est des gens qui veulent fausser l'archéologie en fonction d'une idéologie. Cette fresque, elle montre des étrangers en train de fabriquer des briques. Et justement, c'est dans la période, en 1300-1400, dans la période où Israël fabriquait ses briques. Donc on a des preuves archéologiques de cette réalité qui est là, mais des gens, pour des questions idéologiques, le refusent. Alors si vous entendez cela, vous leur dites, moi j'ai vu une fresque, et je l'ai vue personnellement celle-là, dans cette tombe, où on voit effectivement un peuple étranger, parce que les Égyptiens sont habillés d'une certaine manière, ils ont des bâtons dans la main, et ils les forcent à travailler. C'est intéressant de le savoir, parce que ça nous encourage à faire confiance à la Bible. Le principe, c'est que beaucoup de gens attaquent la Bible parce qu'ils veulent attaquer la foi. Et ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas de la foi. Donc des gens qui sont soi-disant honnêtes intellectuellement, au niveau scientifique, c'est des malhonnêtes et des menteurs. Il faut le savoir. Ne vous laissez pas faire, si vous entendez des émissions à la télévision, si vous entendez des choses, je veux dire, moi-même, des fois je m'énerve parce que je connais la vérité, je connais la réponse, puis d'où ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils font et pourquoi, ça m'énerve parce que c'est de la malhonnêteté. Ils nous disent que nous on est malhonnêtes, mais c'est pas vrai, c'est eux qui sont malhonnêtes. Ils sont pas intègres, ils sont pas justes. Alors ne nous laissons pas faire, ces textes c'est la vérité. Et cette vérité, elle change, elle bouleverse nos vies. Et c'est là maintenant quelque chose d'autre que j'aimerais vous montrer. Il y a plusieurs niveaux où on peut lire la Bible. J'aimerais vous montrer maintenant quelque chose qui, personnellement, est une preuve de l'existence divine de Dieu. Mais cette preuve, elle ne vient que pour les croyants. Les non-croyants ne la voient pas. Parce que ça demande du travail, ça demande finalement une honnêteté, ça demande de pouvoir finalement réfléchir. Alors je vais juste faire un petit peu appel à votre intelligence et à vous encourager au travers de cela. Dans Exode, vous avez absolument tout qui est déjà écrit dans ce qui va se passer dans la vie de Jésus. Et où tout dans Exode est déjà donné au niveau des titres de Jésus. Et au niveau de tout ce qu'il va faire, tout est dans l'Exode. Et c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ça a été écrit probablement en 1300-1400 avant Jésus. Et où prophétiquement, à l'intérieur de l'histoire même du peuple juif, il y avait une autre histoire qui était cachée. C'est un peu comme une poupée russe, et où finalement la vraie vérité, elle est dans ce que nous on connaît du Nouveau Testament. Mais c'était caché dans l'Ancien Testament, et toute la substance du Nouveau Testament et la connaissance vraiment du Nouveau Testament, de ce que Jésus a fait et dit et autres, trouve ses racines en fait dans Exode, dans le peuple juif, dans ce qu'ils ont vécu. Et absolument tout est là, chapitre par chapitre, et on le verra. Alors ça fait beaucoup, je ne vais pas vous dire, mais ce PowerPoint, il sera là pour vous, si vous le voulez, je vous le donne volontiers. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de ces fameux murmures. Alors ça, c'est l'épreuve pour laquelle on a prié, hein. Je veux dire, on est là, on est dans nos frustrations, nos problèmes, mais ce que Dieu il veut en nous, c'est qu'on inverse le processus et qu'on fasse confiance à Dieu. Là, il y a une conversion, il faut que nous-mêmes, on abandonne et qu'on fasse confiance à Dieu. C'est ça la clé. Faire confiance à Dieu, avoir la foi. Avoir la foi, c'est faire confiance. Est-ce que, mon frère, ma sœur, dans l'épreuve que tu es en train de vivre, est-ce que tu fais confiance à Dieu pour ta vie, pour le problème que tu rencontres maintenant? C'est ça la clé. C'est ça ce que Dieu veut. Est-ce que tu as confiance ou est-ce que tu veux de nouveau faire les choses par toi-même? Rassurez-vous, hein, Dieu, il n'y a aucun problème, il a le temps, lui. Donc si tu ne comprends pas cette fois, bah, la prochaine fois, il reviendra sur le sujet, d'une autre manière, quoi. Alors plus vite on apprend, mieux c'est, hein. Mais effectivement, des fois, il y a des leçons qui sont tellement profondes, tellement dures, que ça nous demande plusieurs choses, quoi. Mais chaque fois, Dieu est tellement bon, c'est que quand on a raté un examen, il nous donne des cours de rattrapage. Et on a un prof personnel qui s'appelle Saint-Esprit, qui nous accompagne, puis qui nous amène dans d'autres chemins, celui qu'on a pris, qui n'est pas forcément celui de Dieu, vous comprenez? Et puis il nous accompagne, puis il nous amène, puis après il nous ramène exactement au même endroit. Puis il nous dit, alors maintenant, c'est mieux, tu es équipé maintenant, est-ce qu'on peut y aller ou bien? Est-ce que tu es prêt à faire le pas maintenant? Non, Seigneur, non, c'est trop dur, quoi. Bon, d'accord, pas de problème, Saint-Esprit continue, il revient, il t'accompagne, puis il te ramène de nouveau au même endroit. Puis maintenant, pour la troisième fois, est-ce que tu penses qu'on t'est prête? Ouais, je crois que c'est le bon moment, quoi. Ah, alors on y va. Vous comprenez? C'est ça, ce qui s'est passé dans Exode. Et c'est en même temps nos histoires de vie. Dieu n'est pas, comment dirais-je, Dieu n'est pas fâché avec aucun d'entre nous. Dieu nous aime. Mais ce qu'il veut, c'est nous faire apprendre à dépendre de lui. Et c'est difficile de lâcher le contrôle. Vous êtes d'accord? Parce que nous, on pense qu'on est des experts pour nous-mêmes, que nous, on sait. Hein, les jeunes, vous n'allez pas vous tromper, vous allez mieux faire que vos parents. Alléluia, amen, j'espère. Dans la réalité, je veux dire, ce n'est pas aussi simple. Et quelque part, ben voilà, on reproduit des choses, il y a des choses qui sont là dans nos vies, mais Dieu sait, calme, cool. Faisons confiance. Laissons Dieu faire son cheminement en nous pour nous aider à apprendre, à dépendre de Dieu. Là, ce qui est caché là-dedans, dans ce chemin de pérégrination, c'est ce que je viens de vous dire, mais ça va plus loin. Parce que finalement, dans les choses que l'on vit, les épreuves nous révèlent qui on est. Personnellement, quand je passe par certaines épreuves, je déteste ma réaction. Je ne sais pas vous, hein, mais il y a des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Et je suis, dans le Jura, je m'excuse, on dit je suis tout caqueux, mais je ne sais plus comment l'exprimer. Quoi. Je suis tout pas bien avec moi-même, quoi, je veux dire. Et je suis tout pas bien, quoi, je dirais. Ça me rebouille, ça me rebouille. Je ne sais pas si les Vaudois, vous avez une expression pour ça. C'est la même? Ah, d'accord, ouais. Ah, ben alors, on se ressemble quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de sentiment, quoi. On n'est pas bien, quoi. On n'est juste pas bien. Il y a des fois, on a juste envie d'avoir un trou de souris, puis de s'enfiler dedans. Et puis, si on avait des gros talons pour se cacher dedans, ça serait génial. Puis on ne peut pas, quoi. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Et donc, c'est vrai qu'on est dans cette attitude-là, mais même là, Dieu nous rejoint, vous comprenez, quoi. Et du moment où on comprend, puis qu'on laisse Dieu faire son œuvre en nous, à ce moment-là, Dieu nous prend par la main, il nous relève. Pourquoi? Parce que lui, il est descendu. Il vient vers nous, puis il nous reprend, quoi, de là où on est. J'aimais bien un de mes directeurs dans un des centres pour toxicomanes qui est parti, qui est mort. Il lui a fallu 11 cures de désintoxication au niveau de l'alcool. C'était un alcoolique, il avait 5 pour 1000. Donc moi, avec 3, je suis mort. Mais lui, il buvait 1 litre de pomme le matin pour se lever. Juste pour vous dire, juste pour ne plus trembler et puis d'aller au boulot. Hein. Donc il faisait du vélo lui aussi, et tout droit, hein, avec 5 pour 1000. Solide le Valaisan. Alcoolo aussi. Et donc, le problème qu'il y avait, c'est que ce gars-là, 11 cures de désintoxication, c'est lui qui a amené la notion vraiment de basse-œil, d'aller rejoindre les toxicomanes là où ils sont plus pauvres, quoi, parce qu'ils n'ont pas la force. Quoi. Et lui, il m'a dit une vérité que je l'ai vu faire lui-même, pratiquer avec ces toxicomanes. Il disait, il n'y a aucun trou aussi profond dans lequel tu es que la main de Dieu ne puisse venir te chercher. Alléluia! Aucun trou aussi profond ne peut être où Dieu ne peut pas venir te rejoindre et te tendre la main pour te sortir de là. Et quand vous connaissez la vie du gars et que vous voyez ce qu'il a fait, je vous promets que ça donne du poids. Et c'est vrai. Alléluia! On a un Dieu génial. On a un Dieu enthousiasmant, quoi. On a un Dieu qui sait, qui nous accompagne, qui nous connaît, qui n'est pas fâché avec nous et qui veut le meilleur. Même si les parents, vous, quand vous corrigez vos enfants, vous êtes vraiment fâchés. Vous êtes fâchés pas avec votre enfant, vous êtes fâchés avec ce qu'il a fait. Si vous êtes fâchés avec votre enfant, c'est pas bon. Hein. Mais je veux dire, on est fâchés avec ce qu'ils ont fait plutôt. Et c'est Dieu aussi avec nous, il n'est pas content du péché, mais il nous aime. Alléluia. Et on a le joker. On a Dieu avec nous, quoi. Et Dieu, il n'est pas là pour nous écraser, et puis pour nous humilier, et puis nous faire comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut que tu sois grand, que tu grandisses, que tu deviennes plus fort, plus beau, plus intelligent, plus sage, plus confiant. C'est ça le plan de Dieu. On m'a toujours dit que quand je me casse une jambe, ça ne casse pas la deuxième fois au même endroit. Parce que, je veux dire, la colle est plus forte que l'autre bout que ça casse. Mes amis, Dieu veut nous rendre plus forts. Et l'épreuve n'a pas pour but de nous tuer, mais de nous d'encourager, de nous fortifier. Mais il faut qu'on lui fasse confiance et qu'on le laisse. Bon, je crois que je vais arrêter là. Puis je devrais y aller une troisième fois. À chaque étape épreuve, Dieu révèle qui il est. Dieu veut se révéler à nous dans ce qu'il est au travers de ces épreuves. Et cet exemple ici, de cette pérégrination, tout au long de ce désert, il y a eu effectivement des choses. Je vous fais grâce de cette explication archéologique. On va tout de suite sauter dans Exode 12, 13, 14. Voyez Exode 12. par exemple. Là, on a vraiment une situation où c'est l'esclavagisme. Et c'est les 10 commandements, c'est les 10 plaies d'Égypte qui sont là et c'est difficile. Et les gens, ils souffrent parce que quelque part, ça va même de mal en pis. Depuis que Moïse est intervenu, ils doivent maintenant fabriquer des briques, mais sans la paille. Ils doivent aller les chercher. Et ils se plaignent. Ah, de nouveau, pourquoi tu nous as amenés là? C'est encore plus dur maintenant qu'avant. Et on est là, quoi, je veux dire. Mais Dieu, à un moment donné, il va aller au bout du truc et il fait la Pâque, il fait le sacrifice. Et le but, c'est les protéger du jugement parce que Pharaon a tué les premiers-nés du fils de Dieu, qui est Israël. Et Dieu dit stop, je veux dire maintenant, on arrête. Et à un moment donné, Dieu va dire on va faire la Pâque. Et on fait la Pâque. C'est à nous qu'on doit immoler. Et ce sang qui vient sur les linteaux pour protéger en signe d'alliance. Et voilà le jugement. Et ce que Pharaon a fait aux enfants de Dieu, Dieu dit à Pharaon, toi tu te prends Dieu, je vais te montrer qui est Dieu. Et même dans le texte, on voit ici dans Exode 7, 10, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que Pharaon était Dieu sur terre, le représentant. Et tout d'un coup, voilà que Dieu s'incarne en Moïse. Et il dit, maintenant c'est moi Dieu, j'interviens et je prends autorité contre toi. Et maintenant, moi aussi, je vais te montrer qui est Dieu, parce que toi, tu n'es pas Dieu. Et finalement, cette épreuve, quoi, et là, on est protégé du jugement. Et la révélation, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, la Pâque. Vous comprenez, quoi? Vous pouvez prendre tous ces textes, Exode 13, 14, 15, 16, 17 et les suivants, et vous allez voir Jésus notre Rédempteur, Jésus notre lumière et notre rocher, Jésus lave du péché, Jésus le pain de vie incarné, Jésus la source d'eau vive, Jésus intercède pour nous. Et toutes ces choses, elles sont cachées dans Exode au travers des épreuves que les Hébreux ont vécues ici et en fonction des situations. J'aime bien, il y a une guerre contre les Amalécites et puis cette guerre, elle est juste finalement après le moment où Pharaon est jugé et puis tout a été mis dans la mer. Et puis en même temps, Dieu les amène dans le désert. Ils ont de nouveau peur, ils ont soif, ils râlent. Et puis c'est là où il y a Horeb qui vient. Et puis là, tout d'un coup, on voit que l'ennemi, eh bien, vient et les frapper. En plus, déjà, ils ont soif, c'est déjà difficile, ils sont déjà révoltés contre Dieu, et voilà en plus que l'ennemi s'en mêle, quoi. Et là, on voit Moïse avec Our et puis Aaron sur la montagne en train d'intercéder. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir Jésus intercéder avec la Trinité pour nous. Et de voir que finalement, nous qui sommes les Josué de nos vies, et nous sommes sur le terrain, de savoir qu'il y a quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui n'est pas fatigué, quelqu'un qui prend le temps. Et c'est Jésus qui est celui qui intercède avec le Saint-Esprit en nous, qui intercède, qui implore. Et quand on parle en langue, on ne sait pas ce que la langue elle dit, on ne sait pas vraiment ce que Dieu dit, mais je suis sûr qu'il intercède pour nous, alors que nous on ne le sait pas. Sur des choses qu'on n'a même pas conscience de ce qui nous arrive nous, eh ben Dieu il le fait, il le révèle au travers du Saint-Esprit et il nous permet de libérer la puissance de délivrance et la force et la guérison. Et Dieu veut ça de nous. Alléluia. On n'est pas désarmés. Obéissons. Suivons le plan de Dieu. Voyez. Et puis le rocher, hein, Jésus, la source d'eau vive, le fameux rocher d'Horeb, c'est Paul dans Corinthiens qui dit comme quoi j'irai un rocher les a suivis et ce rocher c'est Jésus. Jésus était déjà là, dans Exode quoi. On peut continuer comme ça avec Exode 18, Jésus bâtit son église, Jésus accomplit la loi, Jésus qui est l'exemple, l'esprit de Jésus nous guide, Jésus accomplit la loi, Jésus notre souverain sacrificateur, Jésus guérit. On retrouve finalement toutes ces choses qui sont là. Là moi je pense que celui-là il est absolument superbe quoi. C'est dans Nombre, hein. C'est le seul qui est un petit peu ailleurs parce que ça c'est après une génération. Ça c'est l'ancienne génération qui va mourir dans le désert, ça c'est la nouvelle qui vient puis ils n'ont rien compris, puis ça continue, ils continuent de râler quoi. Donc quelque part, 40 ans de manne, hein. C'est sûr, hein, de la manne au déjeuner, de la manne à midi, de la manne le soir. Je ne sais pas si vous allez tenir longtemps comme ça. Hein. Quoique, en Asie, ils ont du riz, hein, matin, midi, soir. Mais en fait, quelque part, ils n'avaient pas envie de ça. Quoi. Je dirais, on en a marre de cette manne et tout. Quoi. Puis finalement, Dieu aussi est obligé d'intervenir. Il envoie les serpents. Et puis la seule manière qu'on a de guérir de ces morsures et de finalement de râler de nos amertumes qui sont là-dedans, c'est dit, regardez au serpent qui est là-bas. Quoi. Parce que votre amertume, je vais faire l'amertume. Et c'est lui qui portera cette amertume pour vous. C'est lui qui portera tout cela. Et qui vous guérira, et qui me permettra de revenir vers vous, et de vous accompagner, malgré votre sale caractère. Excusez-moi, vous n'avez pas un sale caractère, c'est moi qui ai un sale caractère. C'est ça. Et quand on voit des textes, et qu'on voit l'application dans nos vies, et qu'on voit comment Dieu, il a déjà tout organisé, planifié, organisé, dans des civilisations étrangères, dans des lieux étrangers, par des circonstances incroyables, par des combats et des luttes. Et derrière tout cela, on comprend qu'il y a un scénariste. On comprend qu'il y a un script et que ce script, il est profond, mais il faut l'étudier. Il faut prendre du temps pour lire. Il faut du temps pour comprendre finalement les choses que Dieu veut nous dire. Et à partir de là, ça édifie notre foi et ça la consolide. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est plus acérée qu'une épée tranchante. Et puis elle vient nous convaincre, elle vient nous amener dans la vérité, même avec des éléments historiques, mais qui sont finalement des exemples de ce qu'eux ont vécu et que nous vivons aujourd'hui. Nous incarnons ces choses. La Bible n'est pas démodée. Elle parle de choses très actuelles. Et c'est absolument la même nature de l'homme qu'il y était il y a 3500 ans en arrière, c'est la même nature. Quand je lis les textes anciens des Égyptiens et autres dans leur poésie ou dans les lois du Code d'Hammurabi et tout, on a exactement les mêmes problèmes aujourd'hui. Ça n'a rien changé. L'homme reste l'homme. Dieu reste Dieu. La vérité reste la vérité. Faisons confiance à ce Dieu qui a su les sortir, qui a su les amener dans les pays promis, qui a su combattre tous les ennemis et les amener. Et encore aujourd'hui, quand on pense à 1948, quand Israël est né, contre tout le plan des nations, contre et envers toute l'histoire, et encore aujourd'hui, Israël est une pierre pesante pour toutes les nations. Déjà annoncé, déjà écrit, déjà dit. Rien de nouveau sous le soleil, disait Salomon. Ne vous inquiétez de rien. Faites confiance à Dieu. Laissez-le vous guider, vous amener dans son plan à lui pour vos vies. Parce que franchement, c'est le meilleur. Peu importe l'épreuve, peu importe si Dieu prend ou reprend pas, ce n'est pas important. Le meilleur, c'est d'être là où Dieu veut qu'on soit et qu'on franchisse les obstacles et qu'on rentre dans ses promesses. Amen. Seigneur, je te confie entre tes mains toutes nos vies parce que nous sommes tous concernés. On te dit merci parce que tu nous encourages. Et effectivement, à la croix, quand tu es mort, tu as pu dire « tout est accompli ». Qu'est-ce qui était accompli ? Ben, tout ce qui était annoncé dans Exode. Tout l'Ancien Testament était accompli. Tu n'as eu besoin de rien écrire parce que tout était déjà écrit. Et on te dit merci Jésus parce que tu nous donnes de l'intelligence spirituelle pour comprendre, mais surtout pour appliquer, Seigneur, les choses qui sont là derrière dans nos vies et qu'on apprenne à te faire confiance et à t'obéir. Même si quelque part on a envie d'être ton expert en te guidant puis en te disant comment tu dois faire les choses, pardon pour notre orgueil. Mais Seigneur, on a tellement peur. Puis on a tellement peur de souffrir que quelque part on ne te fait pas confiance dans ce que nous sommes. Alors pardon, viens au-delà de nous, nous guider dans la vérité, dans la justice qui est la tienne. Alors merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Et Seigneur, tu nous aides à être plus que vainqueurs en toi. Alors Saint-Esprit, on veut s'ouvrir à toi encore ce matin, comme on l'a chanté, et te demander, accomplis ton œuvre, sois cette nuée qui a guidé Seigneur, finalement, ton peuple dans les déserts, dans les difficultés, qui s'est même interposé entre l'armée de Pharaon avec les ennemis, et tu les as amenés à traverser cette mer, et tu les as baptisés au travers de cela, tant de signes, tant de choses que nous ne comprenons pas, mais nous tous, Seigneur, nous sommes au bénéfice de la même grâce, de la même puissance, de la même autorité, et en plus, nous avons la compréhension de Jésus. Quel cadeau, Seigneur! Et on te dit merci, bénis ton Église. Nous nous remettons entre tes mains, fortifie-nous, garde-nous, aide d'être, Seigneur, ces vainqueurs que tu veux que l'on soit dans toutes les circonstances de nos vies, parce que toi, tu es le vainqueur, et on te fait confiance. Seigneur, on peut perdre, Seigneur, des batailles, mais on a déjà gagné la guerre, parce que tu l'as gagnée. Et on te dit merci d'avance pour ta révélation, parce que tu veux nous révéler de mieux en mieux qui tu es, aussi au travers des souffrances. Ta Bible nous dit, si quelqu'un souffre, eh bien qu'il réfléchisse. Alors Seigneur, voilà, on réfléchit et on veut se laisser faire par toi. Et on te dit merci parce que tu nous donnes des réponses qui sont vraies et qui ne sont pas là pour nous flatter, mais qui nous amènent vers la vraie vie et la vraie guérison. Alors gloire à toi Jésus. Bénis-nous cette semaine, fortifie-nous chacun, aide-nous Seigneur à marcher dans le plan de vie que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Amen.